Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue, la Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir, Jacques Aristide à Washington. Bienvenue à l'écoute de ce premier tour de l'actualité en ce samedi 27 septembre 2014. En République démocratique du Congo, quelques milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Kinshasa, rapporte l'AFP et Radio Okapi. La marche était organisée par les partis d'opposition contre l'intention prêtée au chef de l'État de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2016, date à laquelle Joseph Kabila doit légalement quitter la présidence. Radio Okapi signale une manifestation identique à Goma, la capitale du Nord Kivu, mais elle a été dispersée par la police à l'aide de gaz lacrymogène, d'après la radio de l'ONU, et d'ajouter que des protestataires ont fait part d'une dizaine de blessés, ce qu'a démenti la police du Nord Kivu, encore indiqué Radio Okapi. Le Fonds monétaire international a approuvé hier une enveloppe supplémentaire de 130 millions de dollars pour les trois pays les plus touchés par Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, qui bénéficient déjà de plans d'aide du FMI. De son côté, la Banque mondiale avait annoncé la veille une aide de 230 à 400 millions de dollars. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué hier que des milliers de doses de vaccins expérimentaux devraient être disponibles début 2014. Et ce samedi, nous apprenons que la chef médicale du Libéria s'est mise en quarantaine pour 21 jours après la mort de son assistant du virus Ebola. Bernice Dahan n'avait pas de symptômes, mais elle s'est isolée par mesure de précaution. La coalition anti-État islamique a étendu ses raids aériens ce samedi en Syrie et en Irak. Des frappes ont été menées par les États-Unis, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Des avions britanniques survolaient ce samedi le territoire irakien, prêts à frapper des positions des djihadistes de l'État islamique. Un bâtiment du groupe terroriste et deux véhicules armés ont notamment été touchés dans la ville kurde d'Aïn al-Arab, dans le nord de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de frappes pour la première fois à Homs. L'ONG ajoute que d'autres raids ont également été effectués contre des positions de Lehi à Minbej, une des rares villes tenues par les djihadistes dans la province d'Alep. En Somalie, une jeune femme de 33 ans a été lapidée à mort par des islamistes d'Al-Shabaab qu'il accusait de polyandrie, plus précisément de s'être secrètement mariée avec au moins trois hommes en même temps. Son exécution en public a eu lieu hier dans la ville côtière de Baraoué. Enterrée jusqu'au cou, Safia Ahmed Djemaleh a été tuée à coups de pierre par des hommes cagoulés après avoir été déclarée coupable en vertu de la charia imposée par Al-Shabaab, groupe affilié à Al-Qaïda. Un juge du tribunal islamique a déclaré à la foule que la femme lui avait avoué son crime et qu'elle en était pleinement consciente. Cette lapidation rappelle celle d'une adolescente de 13 ans en 2008. Al-Shabaab l'avait accusée d'adultère, mais à l'époque, l'ONU avait rapporté qu'elle avait été violée. En Égypte, verdict ajourné pour le président déchu Hosni Moubarak. Le tribunal qui le juge a reporté son jugement au 29 novembre. L'ex-président est accusé de complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire qu'il a chassé du pouvoir début 2011. Le juge a expliqué qu'il n'avait pas encore eu assez de temps pour examiner tous les éléments de preuve dans cette affaire, soit l'équivalent de 160 000 pages. Lors d'un premier procès, Hosni Moubarak avait été condamné en 2012 à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et l'affaire rejugée. L'Afrique du Sud va allouer 31 millions de dollars d'aide économique à Cuba. Cet argent devrait servir au développement de l'agriculture cubaine, à l'achat des semences et des biens sud-africains. Le montant inclut également une ligne de crédit de 18,75 millions de dollars. Des parlementaires sud-africains ont critiqué cet accord, le qualifiant de cadeau et de détournement des deniers publics. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour un autre tour de l'horizon de l'actualité.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Ebola, l'UNICEF distribue des milliers de kits de santé pour aider les familles à affronter la maladie.
Alors ces kits ils contiennent exactement des gants, des masques, une blouse. Ils ont du savon, du chlore et quelque chose pour un spray. Et également des instructions sur comment utiliser le matériel.
On entendra Jérôme Paffman de l'UNICEF qui était joint à Conakry en Guinée. Face à l'épidémie d'obésité et de diabète aux États-Unis, trois géants américains de la boisson sucrée se sont engagés à réduire les calories de leur liquide.
Ces dernières années, l'obésité et le diabète sont devenus un problème de santé publique aux États-Unis. Un problème très coûteux et difficile à gérer et la pression monte pour trouver des solutions.
Jacques Aristide nous en dira davantage et nous vous expliquerons pourquoi l'agence spatiale américaine, la NASA, a expédié cette semaine une imprimante en trois dimensions à la Station spatiale internationale. Alors que l'OMS publiait ce jeudi un nouveau bilan de l'épidémie de virus à Ebola, évoquant au moins 6263 malades et 2917 morts à compter du 21 septembre, l'UNICEF entamait la distribution de 9000 kits de santé au Libéria. En tout, l'organisation onusienne prévoit de distribuer 50 000 trousses de matériel aux particuliers grâce à un financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le USAID, et la fondation de la famille de Paul G. Allen aux États-Unis. Pour plus de précision, on écoute Jérôme Paffman de l'UNICEF.
La distribution va être faite d'abord en partenariat et avec le gouvernement du Libéria. Et il va aller principalement auprès des personnes qui vont aller dans les centres de soins pour Ebola pour qu'ils puissent protéger leur famille. Et ensuite, il va être aussi distribué auprès des personnes qui vont dans les centres de traitement pour Ebola. Mais comme les places sont saturées, certains doivent pouvoir être en attente, pouvoir continuer à apporter des soins de base, des soins. Et donc, ils vont pouvoir avoir ces kits pour pouvoir se protéger et également pour pouvoir aussi... Une fois que leur famille et les personnes sont admises dans les centres de traitement, pouvoir nettoyer leur maison et remettre les conditions d'hygiène nécessaires pour réhabiter la maison.
Que contiennent ces kits ?
Alors ces kits, ils contiennent exactement des gants, des masques, une blouse. Ils ont du savon, du chlore et quelque chose pour un spray. Et également des instructions sur comment utiliser le matériel.
Une fois que ce matériel aura été utilisé par les familles, comment est-ce que les familles vont pouvoir le jeter de façon sûre pour éviter de propager l'épidémie?
Ça, c'est l'enjeu autour de la gestion de ces kits, c'est l'élimination des déchets. Donc, ces kits sont donnés avec une formation qui inclut l'élimination de ces déchets, qui, dans la mesure du possible, doivent être incinérés et doivent être détruits et brûlés. Et donc l'objectif est avec le gouvernement, avec les partenaires sur le terrain, les associations communautaires, de pouvoir donc former suffisamment de personnes pour pouvoir faire le suivi et accompagner les familles dans la gestion de ces déchets.
Sur le terrain, est-ce que vos efforts sont mieux reçus que dans le passé? Il y a eu ces problèmes, par exemple en Guinée, où des équipes de responsables sanitaires ont été attaquées. Comment est-ce que la population vous accueille ces jours-ci?
Les dynamiques communautaires sont différentes au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée. Et donc au Libéria, la demande de la population, des Libériens, est très très forte pour pouvoir être actif dans la prise en charge et dans la réponse et d'être un des acteurs moteurs de cette lutte contre cette épidémie. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé ici, c'est cette demande très forte de la population pour pouvoir activement lutter contre Ebola. Il y a écrit partout « Ebola is real » et je pense que c'est un message qui est très très fort dans la population. Et donc cette population est en demande. Et c'est vrai que ces kits, c'est aussi un moyen d'outiller, de donner les capacités aux communautés ici, de commencer à construire cette réponse et cette lutte contre Ebola.
Est-ce qu'il y a un mieux du côté des traditions, notamment les traditions pour s'occuper des personnes qui sont mortes et les enterrer ?
Il y a un grand travail de mobilisation communautaire qui est fait par le gouvernement avec l'appui évidemment de UNICEF pour pouvoir faire passer les messages auprès des leaders traditionnels, auprès des leaders religieux, auprès des leaders de la communauté et auprès des communautés elles-mêmes pour que justement les habitudes ou les traditions qui peuvent entraîner des risques de contamination plus élevés, notamment les enterrements, puissent être revus en fonction de ce contexte et de ce risque infectieux. Les choses, je pense, au Liberia sont en train d'avancer et c'est principalement grâce à cette mobilisation très forte des communautés qui veulent se débarrasser de Ebola. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et l'effort doit être continué.
L'UNICEF s'inquiète d'un phénomène qui se développe, c'est celui des orphelins de l'Ebola. De ce côté-là, qu'est-ce qui se passe ?
Ça, c'est effectivement un problème qui est de plus en plus important. Il faut savoir qu'au départ, ce qui se disait sur Ebola, c'était que c'est une épidémie qui ne touche pas en priorité les enfants. Et c'est vrai que quand on regarde de manière proportionnelle, le nombre d'enfants qui sont atteints par la maladie ne sont pas la majorité. Il n'empêche que maintenant, le contexte a complètement changé parce que le volume, le nombre de personnes étant atteintes, fait que le nombre d'enfants sont de plus en plus importants et nécessitent une prise en charge particulière. Il y a une prise en charge d'un point de vue médical qui doit être pensée, comment on donne des soins adaptés aux enfants, et il y a une prise en charge sociale, psychologique, qui doit permettre l'accompagnement de ces enfants, soit parce que leurs parents eux-mêmes ont été atteints de la maladie d'Ebola et du coup, ils ont soit perdu leurs parents et donc eux deviennent des cas potentiels, ils doivent être suivis pendant tout le temps d'incubation. Ensuite, durant la prise en charge, et si jamais ils sont soit négatifs et donc ils ont besoin d'une prise en charge sociale parce qu'ils ont perdu un ou deux de leurs parents, et ensuite, si jamais ils sont déclarés positifs, ils ont besoin d'une prise en charge, donc comme j'ai dit, médicale adaptée, et ensuite une prise en charge en tant que survivant pour pouvoir avoir une réinsertion sociale et un accompagnement psychologique tout au long de cette prise en charge. Les besoins sont de plus en plus importants. Mais c'est de plus en plus difficile de faire face à cela. Mais au Liberia, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales sont ensemble. Donc ça permet de coordonner cette approche et essayer de trouver les réponses. Dire que les choses se fassent sans encombre, ce serait probablement une erreur. Les besoins sont énormes et les capacités de réponse sont insuffisantes. Maintenant, il y a une mobilisation qui est de plus en plus importante. Les partenaires extérieurs, les gouvernements, les agences des Nations Unies, tous ensemble, se mobilisent pour essayer de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour apporter ces réponses à ces besoins.
Monsieur Jérôme Paffman de l'UNICEF, il était joint à Conakry, en Guinée. Camille Gros-Didier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un magazine hebdomadaire de La Voix de l'Amérique. Sur place en Afrique de l'Ouest, les équipes de Médecins sans frontières redoublent d'efforts pour vaincre le virus à Ebola. En Guinée, elles sont confrontées à plusieurs défis, dont la méfiance des populations qui ont attaqué des travailleurs et des centres de santé. Pour faire le point sur les conditions de travail de MSF à Conakry, j'ai joint l'infirmier Pierre Avry.
En Guinée forestière, je crois, il y a eu la semaine dernière ou cette semaine, 7 ou 8 personnes qui ont été tuées par des villageois. Ces personnes-là travaillaient en tant que sensibilisateurs pour Ebola et ils ont été tués par des villageois. Bah, ce qui nous tient à cœur, c'est que nous, on est des infirmiers, des médecins, des logisticiens. Et on est là pour essayer de circonscrire l'épidémie et limiter la contamination, en fait. Et malheureusement, bah, il y a beaucoup de rumeurs qui courent, beaucoup de on-dit. Et bah, malheureusement, ils prennent le dessus sur la transmission du virus, quoi. Donc, là, je sais qu'il y a des personnes qui sont positives dans certains endroits de la Guinée et qui ont été relâchées du centre, qui ne sont pas guéries, et donc qui vont continuer à contaminer des populations. Ça va faire d'autres chaînes de transmission, donc ça va encore augmenter l'épidémie. Là, je pense qu'on est en... c'est une courbe exponentielle, hein, de transmission. Et chaque jour est pire qu'avant. Hein. Chaque jour est pire. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Et ça va aller de mal en pire, hein, malheureusement.
Est-ce que vous rencontrez davantage de coopération, par exemple, de la part des populations?
On va dire qu'on a des sensibilisateurs qui travaillent pour nous, hein, et qui vont parfois aussi dans la communauté pour sensibiliser les gens à Ebola. Mais en tout cas, à Conakry, on n'a pas vraiment de problème. Hein. Le message passe assez bien, et bon, malgré quelques personnes qui refusent complètement le fait qu'Ebola est dans le pays, il y en a qui ont le déni, hein, complet. Généralement, on est quand même plutôt bien accepté. Mais après, vous avez dû entendre, dans d'autres régions de la Guinée, par exemple près de Sorocaria, il y a eu des incidents. Hein. Il y a eu des incidents et nous, on a dû fermer un centre de transit qu'on voulait ouvrir. On a dû le fermer parce que les gens ont ravagé en fait le centre de transit. Donc, c'est aléatoire. Ça dépend, je pense, du niveau d'éducation des personnes. Et j'imagine que plus on s'éloigne des villes, moins il y a un niveau d'éducation élevé.
Est-ce que du côté des équipements, vous avez de quoi travailler?
Oui, pour l'instant, on n'a pas de problème, en tout cas, de rupture ou de pré-rupture. Pour l'instant, on a une quantité suffisante. Mais vous savez, on utilise beaucoup de chlore pour désinfecter, pour nettoyer le matériel. Et donc, on utilise des lunettes de protection. L'élastique est mangé par le chlore, ainsi que des tabliers en plastique. On a aussi des tabliers en plastique et ceux-ci sont aussi mangés par le chlore. Donc, on est obligé de faire un turnover assez fréquent de matériel renouvelable. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème par rapport à ces équipements. Enfin, on n'a pas de problème de stock.
Comment est-ce que vous disposez des équipements contaminés?
On les brûle dans un incinérateur qui est à l'intérieur même du centre de traitement d'Ebola.
Quand vous soignez vos patients, quels sont encore les défis qui se posent?
Il y en a plusieurs. Bah là, je vous dirais déjà que c'est le nombre de patients dans le centre d'Ebola. Là, ce soir, on a à peu près 37 malades confirmés. Donc, ça fait beaucoup de personnes, ça fait beaucoup de patients. Et nous, on demande à notre staff infirmier, médecin et hygiéniste de rester maximum une heure en PPE, c'est-à-dire en équipement, en combinaison. Et donc, une heure, c'est assez court pour faire tous les soins nécessaires. Donc, c'est-à-dire prendre les constantes, administrer les traitements et faire des soins de nursing s'il y a besoin. Donc, ça, c'est un premier challenge, c'est le nombre de patients. Et après, il y a bien sûr les risques, hein, les risques de contamination par le staff, c'est-à-dire si quelqu'un se blesse avec une aiguille, il est contaminé. Ça, c'est un énorme risque. Hein. Donc nous, on limite au maximum les gestes invasifs, c'est-à-dire mettre des sondes, mettre des cathéters. Voilà, si c'est pas vital, on ne met pas. Quoi. Et c'est un peu les deux gros challenges, hein, ne pas prendre de risques inutiles à notre staff et le nombre de patients actuels.
L'infirmier Pierre Avry, de MSF, il était joint à Conakry, en Guinée. Camille Grosdidier, je vous accompagne pour Carrefour Science et Santé, un magazine offert par La Voix de l'Amérique. Alors que l'obésité et le diabète sont en hausse aux États-Unis, mais également à travers le monde, trois groupes américains se sont engagés à réduire les calories de leurs boissons, pointé du doigt par les responsables sanitaires. Jacques Aristide.
Trois géants des boissons sucrées, Coca-Cola, Pepsi et Dr Pepper, ont annoncé une initiative pour réduire les calories de leurs boissons de 20% au cours de la prochaine décennie en commercialisant prioritairement des bouteilles ou canettes de plus petite taille, de l'eau minérale et les boissons sucrées artificiellement. Ces fabricants, regroupés au sein de l'Association américaine des boissons, ont déclaré mardi avoir conclu un accord avec l'Alliance pour une génération plus saine, une ONG, pour lutter contre l'obésité. Ces dernières années, l'obésité et le diabète sont devenus un problème de santé publique aux États-Unis, un problème très coûteux et difficile à gérer, et la pression monte pour trouver des solutions. La ville de New York avait été la première à lancer un cri d'alarme sous la direction de l'ancien maire Michael Bloomberg. Il avait échoué à faire interdire les boissons géantes jusqu'à 1 litre d'eau gazeuse lourdement sucrée. Les géants de la boisson en bouteille ont réussi à déjouer son projet, mais San Francisco a entre-temps décidé d'imposer une taxe sur les boissons sucrées. Les électeurs trancheront sur la mesure lors des élections prévues début novembre. Le Centre pour la science dans l'intérêt public, un institut basé à Washington, s'est félicité de la décision des fabricants de boissons, la qualifiant de bonne nouvelle. Mais il a appelé les entreprises à abandonner leur opposition aux taxes sur les boissons et aux étiquettes qu'on envisage de placer sur les bouteilles ou canettes de boissons sucrées, avertissant contre l'excès de sucre et son impact sur la santé. De son côté, le professeur de nutrition et santé publique Marion Nestlé de l'Université de New York affirme que les entreprises peuvent atteindre l'objectif de 20% de réduction des calories des boissons parce que la consommation de soda a diminué ces dernières années.
Par ailleurs, les édulcorants artificiels largement prônés ces dernières années comme des outils de prévention de l'obésité et du diabète pourraient en réalité entraîner des changements métaboliques et contribuer à aggraver les risques de diabète. C'est ce que révèle une étude israélienne publiée cette semaine. Selon le docteur Eran Elinaf de l'Institut Weizmann, certaines bactéries pourraient interagir avec les composés chimiques des édulcorants qui ne sont pas absorbés par l'intestin en sécrétant des réactions inflammatoires qui exacerberait les troubles métaboliques tels que l'intolérance au glucose ou le diabète. Donc, boire des boissons sucrées artificiellement n'est pas une panacée. Vous êtes à l'écoute du magazine Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. Ici aux États-Unis, les industriels du film et de la télévision vont pouvoir utiliser des mini-drones. Jean-Roger Bion.
Si les particuliers sont soumis à des règles très strictes concernant l'usage de mini-drones ou quadricopters, certaines entreprises privées viennent d'être autorisées à les utiliser dans le cadre du tournage de films, longs-métrages ou publicités. La Federal Aviation Administration, FAA, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis, a donné son feu vert cette semaine. L'association interprofessionnelle des 6 plus grands studios de Hollywood, la Motion Picture Association of America, avait demandé à la FAA, il y a quelques mois, de donner son aval concernant l'emploi de drones pendant les tournages, car ils permettent des prises de vue totalement impossibles à réaliser avec les moyens classiques et sont de plus en plus prisés par les réalisateurs. Leur pétition a abouti, l'espoir étant que les drones amélioreront considérablement le ressenti des spectateurs devant l'écran.
Vous êtes à l'écoute du magazine Carrefour Science et Santé. Le Niger vient d'être doté d'un centre ophtalmologique pour traiter les malades des cataractes. Le projet a été financé par la Banque islamique de développement ainsi que la fondation turque Humanitarian Relief. Il est d'autant plus important que le Niger souffre d'un des taux de prévalence de la cécité les plus élevés en Afrique. Des précisions avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Le centre effectuera par mois près de 500 opérations chirurgicales de malades atteints par la cataracte. Il servira aussi de lieu de formation pour les acteurs de la lutte contre la cécité. C'est dire combien il est important pour le Niger dont la situation sur le plan de la prévalence de cette maladie n'est pas du tout reluisante, ainsi que le présente la ministre de la Santé par intérim, Madame Ali Mariama Ibrahim.
La cécité est aujourd'hui reconnue comme un grave problème de santé publique au Niger, avec une prévalence de 2,2%, alors que la norme de l'OMS est de 0,5%. Le Niger compte 374 000 aveugles qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne tous les jours. Et ces personnes sont très souvent des petits-enfants qui ne connaîtront jamais le chemin de l'école. Cela signifie aussi que ce sont 748 000 personnes qui ne travailleront pas et qui seront à la charge du pays.
C'est donc face à l'ampleur de cette maladie et ses conséquences que la Banque islamique de développement et la Fondation turque Humanitarian Relief, partenaires du Niger, ont mis gracieusement à la disposition du pays le dit centre, leurs représentants respectifs à la réception du centre.
L'ABID, qui a principalement joué le rôle de facilitateur pendant toute l'opération, a également contribué au financement de l'équipement médical pour la nouvelle unité ophtalmique. Cet équipement est prévu pour favoriser le transfert de technologies dans le domaine ophtalmologique et en particulier dans les techniques les plus avancées de la chirurgie de la cataracte.
Comme vous le savez, depuis l'ouverture de notre ambassade, il y a plusieurs projets dans le domaine de la santé, parce que la santé, c'est un domaine prioritaire pour nous, pour la Turquie.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour la Voix de l'Amérique.
êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. Des centaines d'enfants américains dans une quarantaine d'États de l'Union sont tombés gravement malades ces derniers mois, victimes de la propagation d'un virus relativement rare. Anne Albertson.
L'entérovirus D68, un virus relativement rare, se propage à un rythme sans précédent aux États-Unis depuis la mi-août. Plus d'un millier de cas ont été signalés et plusieurs centaines d'enfants de tous âges ont dû être hospitalisés pour cause de détresse respiratoire aiguë. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, environ 28 États sont affectés. Il est probable que toutes les régions du pays seront touchées. On signalait cette semaine des cas dans le Massachusetts, en Californie, en Caroline du Nord, de même qu'en Colombie-Britannique, au Canada. Le D68 provient de la même souche que le virus pied-main-bouche, qui touche particulièrement les jeunes enfants. Au début, les symptômes s'apparentent à ceux du rhume, avec de la fièvre et de la toux, mais ils peuvent dégénérer en problèmes pulmonaires qui rappellent ceux provoqués par l'asthme et qui nécessitent des hospitalisations rapides, car l'enfant semble étouffé.
Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Au terme d'un périple de 10 mois après avoir parcouru 711 millions de kilomètres, le vaisseau spatial américain MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, a réussi son insertion en orbite autour de Mars cette semaine. Michel Joseph.
C'est ce qu'a indiqué l'agence spatiale américaine, la NASA, en rappelant que MAVEN a pour mission d'étudier la haute atmosphère de la planète rouge et d'aider les scientifiques à mieux comprendre l'évolution de son climat. Car l'atmosphère de Mars a été suffisamment chaude à une époque pour que l'eau coule à sa surface, alors qu'aujourd'hui, il ne reste qu'un désert de roches et de poussière et de la glace. Notamment, MAVEN va permettre de mesurer la vitesse à laquelle les gaz s'échappent de l'atmosphère martienne dans l'espace. Nous cherchons donc à savoir ce qui se passe au sommet de l'atmosphère, la façon dont les processus impliquant le soleil et les vents solaires affectent les gaz au sommet de l'atmosphère et les éparpillent loin dans l'espace. Donc, en substance, notre objectif est de répondre à la question de savoir où est passée l'eau et le dioxyde de carbone, a expliqué Bruce Jakoski de l'Université de Colorado, principal scientifique de MAVEN. La sonde de 2,45 tonnes a entamé une période de 6 semaines de calibrage de ses instruments qui lui permettra d'entamer sa mission d'un an. À terme, elle se placera sur une orbite elliptique qui lui permettra des observations sous toutes les latitudes de toutes les couches de la haute atmosphère martienne avec une altitude variant de 150 mètres à plus de 6000 km, précise la NASA. 3 satellites, 2 américains et 1 européen, sont actuellement en orbite autour de Mars. Une autre sonde lancée par l'Inde est arrivée autour de la planète rouge mercredi et a déjà retransmis ses premières photos de Mars, montrant sa surface creusée de cratères.
Et pour finir cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique, eh bien, une imprimante en 3 dimensions pour la Station Spatiale Internationale, pourquoi pas? Jacques Aristide explique.
Eh bien Camille, cette imprimante a voyagé cette semaine à bord d'une capsule non habitée baptisée Dragon de la société américaine privée SpaceX. Fabriquée par la société américaine Made in Space, elle a été conçue pour fonctionner dans un environnement dépourvu de pesanteur. L'idée, affirme l'agence spatiale américaine, la NASA, est qu'au lieu d'envoyer à grands frais des pièces de rechange sur les stations spatiales internationales, ses occupants pourraient les imprimer dans l'espace à partir de fichiers envoyés depuis la Terre. Mais cela va-t-il marcher ? La NASA se veut résolument optimiste. Pour elle, l'utilisation de l'imprimante dans l'espace représente une nouvelle ère de la fabrication d'objets hors de notre Terre. Eh bien, l'avenir nous en dira davantage.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivie.